Vous écoutez, on lit pour vous.
Ne plus porter le monde seul. Un dossier de Judith Lachapelle, paru le 8 mars 2026 dans La Presse. Au Québec et ailleurs dans le monde, les taux de fécondité atteignent aujourd'hui des creux historiques. Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais encore trop souvent mal compris. Les femmes ont-elles raison de se crisper quand on parle de natalité en 2026? La charge est trop lourde. Il n'y a rien comme une plongée dans les archives de journal pour mesurer le chemin parcouru sur la route des femmes et de la maternité. Le numéro de La Presse du 15 septembre 1988 contient, à lui seul, une série de nouvelles qui sont encore curieusement d'actualité, près de 40 ans plus tard. En page 14, un titre attire le regard. « La rébellion des femmes notaires est loin de s'apaiser ». Quelques jours plus tôt, le directeur de la Chambre des notaires s'était dit préoccupé par la féminisation grandissante de la profession. Certaines femmes notaires exercent leur profession dans leur sous-sol de 15 à 17 heures et s'en tiennent à la conclusion de quelques actes par jour pendant que leur mari travaille à l'extérieur, avait-il déploré. Les femmes notaires, on s'en doute, n'avaient pas spécialement apprécié ces propos. En page 10, la religieuse vedette de l'époque, Mère Teresa, en visite au Canada, réclamait l'emprisonnement des médecins pratiquant des avortements et qualifiait de criminels les femmes qui se faisaient avorter. Mère Teresa est morte depuis près de 30 ans, mais au Tennessee, pas plus tard que le 24 février dernier, des élus républicains ont déposé un projet de loi qui traiterait l'avortement comme un homicide, exposant potentiellement les femmes qui y ont recours à la peine de mort. Et à la une, La Presse publiait les résultats d'un grand sondage mené auprès des Québécois sur les causes de la dénatalité. En 1987, le taux de fécondité avait atteint 1,36 enfants par femme, un creux historique. L'adoption d'une série de mesures à partir de 1988 avait permis de faire augmenter le nombre de bébés dans les maternités jusqu'à ce que la courbe pique à nouveau du nez. En 2024, le taux de natalité était de 1,33 enfants par femme. En 1988, il y avait eu une réponse politique très forte, rappelle Sophie Mathieu, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des politiques familiales. Et maintenant, on est loin de la panique comme on a décrit la réaction québécoise à la baisse de fécondité dans les années 1980. Mais on sent une incompréhension de la situation chez les partis politiques, dit Mme Mathieu. Signe que, lorsqu'on parle de natalité en 2026, on ne s'y prend pas toujours de la bonne façon. Que ce soit pour contrer le déclin du français, pour financer les programmes sociaux ou pour combler les besoins futurs en main-d'œuvre, la question de la natalité est, tôt ou tard, soulevée dans l'espace public. Dans le cadre de l'actuelle course à la chefferie de la CAQ, l'aspirant premier ministre Bernard Drainville a, par exemple, récemment déclaré vouloir que la famille redevienne un projet de société au Québec. Évidemment, lorsqu'il est question de faire des bébés, les femmes se sentent directement concernées. Dans une publication sur Instagram, le 15 février 2026, l'autrice Martine Delvaux qualifiait d'ailleurs le mot « natalité » de « mot à surveiller ». On on parle de natalité, remarque-t-elle, chaque fois qu'il est question de montée de l'infertilité, chaque fois que le droit à l'avortement est attaqué, chaque fois que les seuils d'immigration sont réduits. Ce que ces discours anti-immigration ne disent pas, mais avouent inconsciemment, c'est le désir de bébés blancs et francophones, estime Martine Delvaux. Je crains l'impact sur les personnes susceptibles de porter des bébés. Les femmes en premier, évidemment, dit-elle. Je crains qu'on limite l'accès à l'avortement de toutes sortes de façons. Je crains qu'on séduise les femmes précaires à l'aide d'un chèque qui, en vérité, ne réglera aucun problème, mais augmentera la natalité, abandonnant les femmes dans leur précarité après avoir donné l'impression de les aider. Est-ce que les femmes ont raison de se crisper en 2026? Dès qu'il est question de l'enjeu de la natalité? Absolument, répète Sophie Mathieu. Outre l'atteinte potentielle aux droits fondamentaux des femmes, elle craint l'adoption de mesures qui n'aideront pas celles qui choisissent la maternité. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on arrive avec une solution facile d'incitatif aux naissances, comme on a eu en 1988. Cette année-là, le gouvernement avait choisi une mesure simple et marquante en réponse à la baisse de natalité. Le bébé bonus. Pour chaque naissance d'un enfant, le gouvernement envoyait un chèque de 500 $ pour le premier enfant jusqu'à 8000 $ pour le troisième. Dès l'année suivante, le taux de fécondité avait légèrement remonté. Un succès, donc? Non. En tout cas, pas à long terme. Plusieurs études ont démontré un peu partout dans le monde que les primes à la naissance n'ont qu'un effet limité et temporaire. Mais ça, en 1988, on ne le comprenait pas encore. À l'époque, la société québécoise avait du mal à identifier ce qui freinait les femmes à mettre plusieurs enfants au monde. Le sondage qui accompagne le dossier, publié dans ce numéro de septembre 1988, est révélateur. Sans surprise, une forte proportion des répondants pointait le travail de la femme à l'extérieur du foyer. Comme l'une des causes principales de la baisse de natalité, tout comme les conditions de travail des femmes. Ce qui est juste. Mais le plus surprenant, surtout avec le recul, c'est qu'à peine la moitié des répondants citaient le manque de garderie et le manque de collaboration de l'homme dans l'accomplissement des tâches relatives aux enfants, parmi les causes de la dénatalité. Et pourtant, des décennies de recherches ont confirmé que les politiques familiales, comme la création des centres de la petite enfance en 1997, l'entrée en vigueur du régime québécois d'assurance parentale en 2006, l'instauration d'un congé de paternité exclusif et une évolution des couples vers un meilleur partage des tâches domestiques ont eu un effet sur la hausse du taux de fécondité et son maintien au-dessus du creux de 1987 pendant plus de 30 ans. Autrement dit, répartissez la responsabilité d'élever un enfant sur plusieurs épaules et les femmes seront plus enclines à faire des enfants. La faible fécondité est un problème collectif. Pourquoi faudrait-il que ce soit seulement aux femmes à porter la solution? Demande Sophie Mathieu, professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke. Tant et aussi longtemps que l'on considérera la mère comme étant la parente principale, on n'arrivera pas à résoudre ce problème, croit Francine Descaries, professeure émérite du département de sociologie de l'UQAM. le père et la mère doivent avoir des rôles équivalents, sans quoi les femmes n'accepteront pas d'augmenter le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir, parce que la charge est trop lourde. Mais toutes ces mesures n'ont pas empêché le taux de fécondité d'atteindre un nouveau creux historique en 2024. Et les spécialistes doutent aujourd'hui qu'il faille à tout prix viser une augmentation des naissances. Les politiques familiales doivent d'abord viser à soutenir les familles plutôt que d'inciter les couples à procréer, disent-elles. Je ne suis pas très favorable aux politiques purement natalistes, dit Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'Université TELUC et spécialiste en organisation du travail. La faiblesse des services publics, en santé et en éducation particulièrement, engendre des coûts importants pour les familles. Passer une journée aux urgences pour soigner une otite, acheter une voiture parce que les transports en commun ne sont pas adaptés, payer de sa poche des services scolaires qui pourraient être rendus par l'école. Je pense qu'on pourrait agir là-dessus, dit Mme Tremblay. Tant mieux si, en fin de compte, ces politiques se traduisent par une hausse des naissances. Mais, chose certaine, il n'y aura pas de retour à des taux de fécondité beaucoup plus élevés que ceux des dernières années. Ce que les femmes veulent, c'est d'avoir une carrière, dit Sophie Mathieu. Et si elles ont à choisir entre la carrière et la maternité, elles vont choisir la carrière. Vous écoutez « Ne plus porter le monde seul », un dossier de Judith Lachapelle, paru le 8 mars 2026 dans La Presse. Pour les enfants et la patrie. La France a longtemps fait figure d'exception au tableau des naissances. Mais les dernières données sur le taux de fécondité, 1,56 enfants par femme en 2025, un creux historique, ont ébranlé la société. Le président Emmanuel Macron a dit vouloir procéder à un réarmement démographique en annonçant une bonification du congé parental et un plan de lutte contre l'infertilité. On en discute avec l'économiste française Hélène Périvier, présidente du Conseil de la famille au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, HCFEA. Est-ce que la baisse de la natalité doit être vue comme un problème? Quand on regarde la diminution du nombre d'enfants par femme, il faut avoir en tête qu'avant les années 1980, les femmes avaient beaucoup plus d'enfants que ce qu'elles voulaient. Pendant des décennies, la question de la sexualité du corps des femmes se faisait aux dépens des droits des femmes. Il faut quand même le rappeler. Dans vos recherches, vous avez sondé les jeunes de 20 à 35 ans sans enfants pour comprendre comment ils se projettent dans la parentalité. Les hommes sont majoritaires à penser qu'il faut faire des enfants pour se conformer à un modèle social. Les femmes, elles, ont une perception nettement plus contraignante de la natalité. Les jeunes hommes voient bien les défauts de la parentalité, mais ils ont l'air de se dire que, tout de même, il faudra bien s'y plier. Les jeunes femmes, elles, sont parfaitement conscientes que les contraintes vont reposer sur elles. Elles ont très bien compris qu'elles allaient devoir faire des ajustements. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la fécondité ne va pas augmenter, d'autant plus que la norme est désormais de 2 enfants par famille plutôt que 3. Est-ce qu'un meilleur partage de ces contraintes peut aider à faire monter la fécondité? Il y a une étude qui a été faite sur le congé de paternité en Espagne qui est très en avance par rapport à la France. Dès les années 2000, les pères espagnols ont obtenu 2 semaines de congé de paternité obligatoire. Les économistes ont montré que ce congé de paternité avait conduit à un report ou à un renoncement de la naissance de l'enfant suivant. Parce que quand vous forcez les hommes à prendre une partie de la charge, eh bien, ils voient les choses différemment. L'égalité homme-femme n'a pas forcément un effet positif sur la natalité, rappelle Mme Périvier. Comment devrait-on articuler les politiques publiques sur la natalité dans ce cas? Pour moi, les politiques familiales doivent servir à accompagner les projets de parentalité pour que les gens aient des enfants et les élèvent dans de bonnes conditions. En France, on a quand même presque 3 millions d'enfants pauvres. Plutôt que de demander aux gens de faire plus d'enfants, peut-être qu'on pourrait mieux s'occuper de ceux qui sont déjà là. En tant qu'économiste, je dirais de mettre tous nos efforts pour que ces enfants deviennent des adultes en bonne santé, éduqués. Parce que ce ne sont pas des personnes qui auront vécu avec toutes sortes de difficultés qui vont payer les retraites des Français. Tour du monde de la natalité. De nombreux pays font face à des enjeux liés à la dénatalité. Et tous n'y répondent pas de la même façon. Petit tour du globe des solutions mises en place. France. Envoyer un rappel aux citoyens, 1,56 enfants par femme. Source, INSEE 2025. À partir de l'été prochain, l'État français enverra une lettre à ses citoyens âgés de 29 ans pour les informer des services auxquels ils ont accès pour prévenir l'infertilité. La possibilité de congeler ses ovocytes pendant qu'on est jeune est une information pertinente à transmettre, croit l'économiste Hélène Périvier. Mais c'est un élément qui devrait être communiqué beaucoup plus tôt, dans des cours de sexualité à l'école, dit-elle. Les raisons profondes pour lesquelles les femmes repoussent une grossesse sont plus difficiles à combattre. Et si une jeune femme savait qu'avoir un enfant à 27 ans n'allait pas pénaliser son développement de carrière, elle ne reporterait peut-être pas son projet de maternité, dit Mme Périvier. Parce que c'est vrai que ça va la pénaliser. Elles ne sont pas idiotes. Suède. Un vrai congé de paternité. 1,43 enfants par femme. Source. Statistik Databasen. 2025. Les pères québécois ont droit à 5 semaines de congé de paternité et peuvent ensuite profiter d'une partie du congé parental. En Suède, les parents ont droit à un congé total de 480 jours rémunérés, soit 240 jours par parent. Sur ces 240 jours, 90 leur sont exclusivement réservés. Ils peuvent aussi partager jusqu'à 45 jours de leur banque avec une autre personne, comme un grand-parent. On parle d'un véritable pacte intergénérationnel, dit Sophie Mathieu. On a tous besoin de petits qui vont devenir des payeurs de taxes. Alors, il faut arrêter de faire porter ça seulement aux femmes. Hongrie. L'échec de la stratégie Orban. 1,31 enfants par femme. Source KHS, Institut national de la statistique, 2025. Le premier ministre Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, a fait de la hausse de la natalité une priorité. Son gouvernement n'a pas lésiné sur les incitatifs fiscaux, dont une exonération d'impôts pour les mères de 4 enfants, une aide financière à l'achat d'un logement, un congé de maternité de 3 ans. Mais l'accès aux services de garde reste difficile et souvent mal vu. De nouvelles contraintes ont également été ajoutées à l'obtention d'une interruption volontaire de grossesse et les avantages fiscaux sont souvent réservés aux couples mariés. Les plus récentes statistiques publiées en janvier dernier ont confirmé l'échec de la stratégie. Après avoir connu une hausse jusqu'en 2021, le taux est aujourd'hui retombé au même niveau qu'en 2010. États-Unis. Quand la chute révèle de bonnes nouvelles. 1,6 enfants par femme. Source CDC 2024. « Je veux un baby-boom », avait déclaré le président Donald Trump en mars 2023. Depuis le début de son second mandat, il n'a cependant pas encore annoncé de mesures concrètes en la matière. Le printemps dernier, la Maison-Blanche avait envisagé d'offrir un boni bébé de 5 000 $ à chaque mère après l'accouchement. En attendant l'annonce de politiques natalistes, des observateurs soulignent que la baisse de la natalité aux États-Unis révèle de bonnes nouvelles. Le nombre de grossesses chez les adolescentes a chuté, tout comme dans les catégories de femmes moins favorisées économiquement. Corée du Sud. Impossible de grandir heureux? 0,8 enfants par femme. Source, Ministère des Données et Statistiques de la Corée du Sud 2025. L'annonce, fin février 2026, d'une hausse de 6 % des naissances en 2025 a fait frémir la Corée du Sud. Mais c'est encore bien loin d'être suffisant pour compenser le nombre de décès dans ce pays asiatique où le phénomène révèle des fractures sociales. Le coût de l'éducation des enfants est l'un des éléments les plus souvent cités comme obstacle à la natalité. La Corée du Sud ont déclaré les jeunes sondés en 2020 dans le cadre d'une grande étude est une société dans laquelle un enfant ne peut pas grandir heureux. Québec, renforcer les mesures sur place. 1,33 enfants par femme. Source, Institut de la statistique du Québec 2024. Malgré ce creux historique, le taux de fécondité au Québec est plus élevé que la moyenne canadienne, 1,25 en 2024, que celui de l'Ontario, 1,21, et que celui de la Colombie-Britannique, 1,02. L'instauration des garderies subventionnées en 1997, la générosité des prestations pour compenser les congés parentaux et le coût de la vie généralement moins élevé au Québec, notamment en matière de logement, font certainement une différence. On dit toujours qu'on est les meilleurs en Amérique du Nord, dit la professeure Sophie Mathieu. Mais on se compare au pire. Il y a encore du travail à faire pour améliorer les mesures publiques en place, dit-elle, comme la qualité des services de garde et l'allongement du congé de paternité. C'était « Ne plus porter le monde seul », un dossier de Judith Lachapelle, paru le 8 mars 2026 dans La Presse.
Dix minutes suffisent. Caresser un chat ou un chien réduit le stress de manière importante. Un texte de Cover Media, paru le 25 mars 2026 dans le Journal de Québec. Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte au quotidien, mais c'est désormais prouvé scientifiquement. Caresser un chat, ou un chien si vous préférez, peut réduire de manière considérable notre niveau de stress. D'après une équipe de chercheurs de la Washington State University, qui s'est intéressée au sujet en profondeur en 2019, il suffirait de 10 minutes par jour pour ressentir les effets de la sérénité féline. L'équipe de scientifiques a demandé à 249 élèves de leur faculté de se séparer en 4 groupes. Le premier interagissait avec des chats et des chiens pendant 10 minutes, le deuxième devait attendre son tour pendant 10 minutes en regardant les autres s'amuser avec les animaux, le troisième regardait des photos des animaux du test, tandis que le quatrième était mis à part en liste d'attente, toujours pendant la même période. Pour chaque groupe, les scientifiques ont testé les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, avant, pendant et après leurs interactions avec les animaux. Les résultats sont clairs. 10 minutes suffisent à avoir un impact significatif. Les étudiants qui ont participé à notre étude ont vu leur niveau de cortisol baisser de manière importante. Nous savions que les étudiants aiment interagir avec des animaux et ça leur permet de ressentir des émotions plus positives, a expliqué le docteur Patricia Pandry, en charge de l'étude. Les animaux contre la dépression. La ronron-thérapie n'est donc pas une lubie. Grâce à leur basse fréquence, les ronronnements du chat ont un effet bénéfique sur l'homme, contre le stress et la dépression. En octobre 2025, une nouvelle étude Ipsos pour Santé Vet confirmait les bienfaits de nos compagnons à quatre pattes sur notre morale. 95% des Français possédant un animal affirment que sa présence a un impact positif sur leur santé mentale. Un chiffre qui grimpe à 97% chez les 18-24 ans, que ce soit contre le stress ou le sentiment de solitude. Les personnes sondées estiment par exemple passer moins de temps sur leurs écrans grâce à leur animal. Caresser un chien ferait chuter la pression artérielle et diminuer le rythme cardiaque. Les hormones du stress comme le cortisol et l'adrénaline sont aussi en baisse en présence d'un animal, alors que la production d'ocytocine et de sérotonine, les hormones du bonheur, est dynamisée. Pas étonnant que, selon une étude parue en mars 2025 dans la revue Social Indicators Research et relayée par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, posséder un animal de compagnie augmenterait le bonheur ressenti, qui rivaliserait avec le niveau de satisfaction des gens percevant un revenu annuel de 84 000 euros. C'était 10 minutes suffisent. Caresser un chat ou un chien réduit le stress de manière importante. Un texte de Cover Media paru le 25 mars 2026 dans le Journal de Québec.